Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. On a tout vous.
Hey, boy! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
On a tout vous. We're gonna be fine. Now, go wait.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
On dit là qu'il y a quelques différences, mais moi j'ai été plutôt étonné de voir à quel point c'est la dernière intervention internationale qui reste, quoi, l'international du cinéma. J'avais commencé par Mao Tse-tung à la conférence de presse. À l'ouverture, là je vais parler de la cinquième internationale. Donc voilà. Je crois qu'on rêve tous qu'il y ait une internationale à nouveau, une internationale de la justice, de la vérité, de la poésie, de la beauté, de la bonté. Et voilà, moi, c'est ce à quoi j'aspire, et en tout cas, j'ai eu l'impression là que tous, qui venons effectivement de mondes différents, d'univers différents, de films avec des budgets différents éventuellement, je veux dire, nous sommes d'accord.
Ainsi parlait Robert Guédiguian à l'issue de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Ellipse, le revoilà une semaine plus tard. Ce juré membre de la 5e internationale et spectateur très privilégié sur la croisette. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
On appelle cela un numéro d'équilibriste, évoqué, commenté, sans en révéler les coulisses, ce palmarès cannois 2018. Et il y a tant de questions qu'on aimerait et qu'on va lui poser. Bonjour Robert Guédiguian.
Bonjour.
Ce bonjour. Merci d'assouvir le plus possible notre curiosité dans les limites du possible et du pacte que vous avez dû signer en prenant vos fonctions de juré. Mais parler du palmarès, c'est parler de cinéma en grand. Alors, que nous ont raconté sur le monde tous ces films en compétition dont 7 sont sortis du chapeau? Avec nous également ce matin deux regards sur cette sélection en plus d'une autre. Bonjour Alex Vicente.
Bonjour.
Correspondant pour Elle Pays en France, et bienvenue Thomas Borrez.
Bonjour.
Pour Studio Magazine et France 24. Juste après ce grand tour de piste des sorties de cette semaine, après le festin cannois, quelques restes si je puis dire. Vous êtes prêts, bien installés, on y va.
Le jury est maintenant au complet. Vous n'en faites pas partie. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a merdé dans vos carrières, non? C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes au Festival de Cannes, mais clairement, vous n'êtes pas du bon côté. La notion d'ombre et lumière, là, est forte ce soir. Je ne sais pas, parce que beaucoup d'entre vous ont participé à des films. Alors posons-nous les bonnes questions. Je vois des acteurs, Chiara Mastroianni, la grande Cécile de France aussi, des gens extraordinaires qui sont là. Je vois des metteurs en scène, même des talentueux, je vois des producteurs, je vois des techniciens. Je vois beaucoup de gens qui ont participé à des films. Ces films étaient-ils si bons? Qui sommes-nous pour dire ce qui est bon ou mauvais? Enfin, voilà. Bonne soirée à tous, bien sûr, avec ces questions sans réponse qui nous permet de vivre plus intensément.
Robert Guédiguian, comme l'a dit Edouard Baer, vous êtes qui est du bon côté, celui du jury. Et je vais même reprendre sa question. Qui sommes-nous pour dire ce qui est bon ou mauvais? Qui êtes-vous pour cela?
Ben, c'est la vraie question qu'il faut se poser, en fait. C'est-à-dire, il ne faut pas penser qu'on répond mieux ou moins bien ou plus mal que d'autres. En fait, je crois que la vie d'un film se joue à travers, bien sûr, des récompenses à des festivals, bien entendu, des sélections déjà, puisque la sélection c'est déjà une récompense, des prix ensuite, mais aussi par ce que dit la critique après et de ce que dit le public aussi. Je crois qu'il y a d'autres verdicts quand même sur un film pour faire exister un film, pour le faire entrer dans l'histoire ou pas. Donc on ne dit pas si le film est bien ou pas bien, on dit dans les 21 films qu'on nous a proposés, ceux que nous avons préférés. Ce qui ne veut pas dire que ce soit les meilleurs. Voilà, je ne peux pas prétendre dire le meilleur du cinéma.
Mais en tant que réalisateur, est-ce que vous pensez avoir plus de savoir pour juger les films? Rien que d'un point de vue mise en scène. Que d'autres jurés qui ne sont pas metteurs en scène.
Oui, mais je crois que quand on juge un film, en fait, quand on juge, de façon de parler, quand on choisit, allez, disons choisir, plutôt, voilà, quand on choisit, et quand on aime un film, on l'aime indépendamment des connaissances, en fait, techniques qu'on peut avoir. Enfin, tout ça fait partie de notre métabolisme, bien entendu. Quand on a déjà tourné des films, évidemment, on sait comment les tourner, on voit bien comment c'est fait, on a une culture cinématographique, on réfère à d'autres films, mais même comme ça, de manière fulgurante, ça nous passe pas. On n'est pas tout neuf, on ne vient pas de naître devant un film, bien entendu. ça ne signifie pas que notre jugement soit meilleur, je crois pas, moi. Je crois pas. Je crois qu'on peut parfois lire des choses d'une manière un petit peu différente, éventuellement les donner à lire à d'autres. Donc je crois qu'il y a une éducation, bien sûr, au cinéma, comme il y a une éducation à la musique, une éducation à la littérature. Oui. Mais je crois aussi que quand on laisse aller son cœur et quand on regarde un film avec beaucoup de candeur, je veux dire, on peut aimer des très beaux films.
Mais Laurent disait une fois que certains, on a l'impression que certains jurés découvraient des cinéastes.
Ah oui, moi, le problème, ça, c'est...
Peut-être pas cette année, mais en général.
Est-ce qu'il y a une langue commune? Et quelle est-elle entre vous? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'il y a quand même des différences de parcours, ouais, d'expérience, de cinéphilie, qui sont lourdes.
Ça, c'est assez passionnant de trouver le dénominateur commun, justement. Parce que, bien entendu, j'allais dire, on va dire que du côté plutôt américain, une analyse qui est très liée à à l'action, au récit, à la structuration, à la vitesse des choses, etc., tout ça. Évidemment, Zagintiev, je serai plus proche de lui, c'est plus la dramaturgie... philosophique, etc., un peu la dramaturgie soviétique, entre guillemets, avec, je dis ça avec beaucoup d'amitié, je suis pas très loin de ça, moi, je suis même à peu près pareil, moi, je suis plus d'accord. Voilà. Donc, il y a des différences d'approche, ouais, comme ça, et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes, par exemple, donc j'ai une sensibilité à fleur de peau, moins d'expérience, moins de, bon, tu parles pas pareil, j'étais le plus vieux du jury, ce qui est terrible, quand même. Donc, je pouvais pas avoir le même discours que quelqu'un qui a 25 ans, en fait, je sais plus, Christine, je crois qu'elle a 27 ans,
très jeune,
bon. Voilà, mais tout ça vient quand même, on trouve ce qu'on trouve. En fait, ce qu'il y a de commun, c'est le film. C'est son récit, c'est ses personnages, c'est quand même, c'est des émotions qu'il dégage, et les émotions et le contenu aussi qu'il dégage, parce que tout le monde est sensible à une certaine forme d'intervention que propose chaque film sur le monde dans lequel nous vivons, et au fond, toutes ces approches-là, ce qui est très surprenant, c'est qu'on se retrouve, en fait, sur des... pour te dire, c'est un jury dans lequel, et ça je peux le dire, on a été très 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 d'accord.
On y reviendra. Une Australienne, un Québécois, un Russe, un Taïwanais, une Burundaise, deux Français, deux Américains. Comment ça se passe au niveau de la langue?
Oui, ça c'est assez simple en fait, parce que on a trois traducteurs en permanence, hein, trois traducteurs chevronnés, bien entendu. Donc anglais, français, chinois, français et russe, français.
Pour les délibérations, mais aussi pour les films, parce que Zagintiev ne lit pas l'anglais.
Pour les films,
on lui traduit les films.
Pour les films,
aussi.
Il avait des écouteurs, on le traduisait, oui.
Ah oui.
Voilà.
Est-ce que c'est un handicap?
Je crois. Moi, je l'ai déjà fait une fois. Je l'avais fait une fois. J'étais jury dans un petit festival en Arménie.
Oui.
Et effectivement, il y avait quelqu'un qui, à l'oreille, effectivement, me traduisait des choses. Alors, tu passais tout le film avec quelqu'un qui me chuchotait dans l'oreille. Évidemment, c'est perturbant, quoi. C'est un effort de concentration dingue. Là, du coup, il y a du plaisir qui disparaît un peu. Ouais. Pour rester en sympathie avec le film, c'est dur, quoi.
Et même dans les délibérations, ça rallonge les délibérations.
Dans les délibérations, ça les rallonge, mais du coup, on a plus de temps. Alors que le film, évidemment, c'est cool. On peut pas arrêter le film pour entendre notre traduction. Bon, dans les délibérations, et les gens, là, vont quand même assez vite et essayer de traduire en simultané, pour pas revenir deux fois. Donc.
Et avant d'arriver, vous nous disiez que vous deviez signer un papier comme quoi vous avez vu le film?
Oui, on signe tous une feuille de présence, bien sûr. Il faut que tout le monde ait vu le film. Non, c'est une affaire quand même sérieuse.
Oui, le
festival, c'est quand même le plus grand festival du monde, c'est le plus grand palmarès du monde. Donc, quand même, c'est une espèce de. C'est quand même extrêmement important. Donc, c'est la moindre des choses. Et c'est fait de cette manière-là que. Évidemment, tous les gens du jury, bien sûr, ont vu tous les films et ils les ont tous vus dans les conditions où on doit les voir. C'est-à-dire d'ailleurs avec du public tout le temps. Il y a toujours jamais une salle vide.
Ouais.
Et évidemment sur un grand écran. Et on n'a pas des liens Vimeo, quoi. Je veux dire. Bon.
Et maintenant la question cruciale, Robert Guédiguian, êtes-vous d'accord avec la Palme d'Or décernée à Corée Eda pour une affaire de famille?
Oui. Sans aucune, oui, tout à fait. Je suis d'accord, même avec tout le palmarès. Donc, vous voyez, je peux aller plus loin que ça.
Bon, ça va aller vite, et alors. Bonjour, au revoir.
Voilà. Non, on va en parler. On va en discuter.
Non, mais, alors, nos amis journalistes qui ont vu le film, Alex, je sais que c'est un film que vous aimez énormément,
oui,
Alex.
Moi, j'aime beaucoup. C'était parmi mes préférés de la compétition, donc ça ne me choque pas du tout que vous lui ayez donné la palme d'or. En revanche, c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de chercher un dénominateur commun. Il s'agit de chercher de trouver un dénominateur commun. Est-ce que ça voudrait dire que la palme d'or est un film de consensus? Est-ce que ça voudrait dire que la Palme d'Or n'est pas forcément un film qui a soulevé d'immenses passions, mais c'est lui qui a dérangé le moins, entre guillemets?
Non, je dirais pas ça. Quand je disais le dénominateur commun, c'est le film lui-même. Mais c'est le film dans son acceptation, c'est pas trop le film dans son acceptation totale, pure et simple. C'est-à-dire que le Coréda a été aimé de tous. Et c'était, en tout cas, je suppose qu'il y a eu des jurys, effectivement, qui s'entendaient moins bien, forcément, parce que c'est un peu hasard, un miracle, hein, je veux dire, bon. Mmh. Mais ce miracle-là, là, j'ai pensé qu'il avait effectivement très très bien fonctionné. À quelques petites appréciations près sur tel ou tout, même sur un film qui aurait pu être à un autre endroit que l'endroit où il est, par exemple, mais qui serait quand même dans le palmarès, grosso modo, je peux dire, on était tous d'accord.
Bonjour Jean Labbadie.
Bonjour.
Vous êtes le distributeur donc de cette palme d'or. En fait, il faut vous dire.
Il est content, lui.
Ben oui.
C'est pour ça qu'il est parmi
nous. Vous dire un grand bravo, Jean, parce que c'est votre 10e palme d'or comme distributeur. Après, Seller et Lula, Barton Fink, Les meilleures intentions, Pulp Fiction, La leçon de piano, Le pianiste, La chambre du fils, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, et moi, Daniel Blake. Vous êtes très superstitieux. Est-ce que vous portiez votre costume ou votre caleçon, je crois, fétiche ce soir-là?
Hein. Ah non, c'est pas un caleçon, non, j'ai un costume, effectivement, que je porte depuis 1990.
Oui, ça se voit, d'ailleurs.
Mais je ne le porte qu'à Cannes.
Non, mais Jean, c'est pas une démarche opportuniste avec Coréda, parce que c'est, vous le distribuez depuis longtemps, et vous avez même écrit « Désormais reconnu à sa juste valeur ».
Bah écoutez, je crois que Robert, qui lui est distribué par Diafana depuis très longtemps, sait que c'est très important ce rapport qu'il y a entre un distributeur et un auteur, et que la fidélité, c'est pour moi une des grandes qualités du cinéma. Oui. Et pour revenir sur une chose que disait Robert, ce que je trouve formidable dans les jurys, mais surtout à Cannes, c'est que d'un coup, 2800 personnes, je crois que c'est le nombre de fauteuils, deviennent un vrai public et participent à quelque chose d'unique qui est de voir un film ensemble. Et pour moi, c'est fondamental et c'est pour ça que Cannes restera le plus grand festival du monde, parce qu'il y a cette communion entre des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent d'horizons différents, de classes sociales différentes, de pays différents, qui n'ont pas les mêmes intérêts et qui communiquent à travers le cinéma.
Vous avez dit, plus tu sors large, plus vite tu couvres le territoire. Donc je suppose que cette Palme d'Or va sortir dans beaucoup de salles.
Je ne sais pas encore exactement sur combien de salles on va sortir. A priori, on va sortir le 12 décembre, qui est une date assez qu'on a beaucoup utilisée sur des films de Coréda, parce que ce sont des films qui tiennent sur la longueur, parce qu'ils ont toujours un bouche-à-oreille formidable. Mmh. Évidemment, la palme, ça donne un booster absolument incroyable à un film, surtout cette année où la compétition était particulièrement remarquable en général.
Pardon pour cette question terre à terre, mais ça coûte cher un film de Coréda à distribuer?
Mais c'est-à-dire, oui, ça coûte à la fois cher et pas cher. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que la compétition est féroce parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent, et donc malheureusement, les échecs sont des vrais échecs et les succès sont toujours un peu en dessous de ce qu'on peut espérer. Ensuite, les films de Coréda se vendent un tout petit peu en télévision. En salle de cinéma, c'est inégal, mais ça marche quand même plutôt bien.
Thomas Borès, vous posez une question.
Oui, je me posais la question en tant que distributeur. Quand on décide de sortir un film 6 mois quasiment après une Palme d'Or, est-ce que du coup, il y a encore l'effet Palme d'Or et qu'on n'a pas parfois la tentation de se dire on va le sortir proche du festival pour bénéficier justement de cette impulsion?
Bon, on a toutes les expériences possibles et imaginables là-dessus, et on s'est rendu compte quand même que pour un film qui n'avait pas eu la Palme d'Or comme Timbuktu, on était sorti le 2 décembre, et ça avait, je pense qu'avec 1 200 000 spectateurs, ça prouvait que les gens n'avaient pas oublié. Je crois que les gens ont quand même beaucoup plus de mémoire qu'on l'imagine, et le choix de la date, c'est quelque chose de très stratégique, parce qu'il faut être au bon endroit. En plus, Coréda sera en France en octobre et en novembre, puisqu'il tourne un film français. Et donc, il est difficile de sortir ce film sans avoir le temps du metteur en scène pour faire la promotion du film. Et il pourra plus facilement la faire début décembre qu'à une autre date de l'année.
Merci beaucoup et encore vraiment merci. Bravo. Jean, un petit mot à Jean Labbadie, Robert Guédiguian.
Je le félicite. On est très amis avec Jean, on se connaît depuis longtemps.
Ah, d'accord. Voilà. Combien vous avez payé Robert et...
J'ai signé la même lettre que Robert. Je ne suis pas censé dire combien j'ai payé Robert, et surtout par rapport aux autres.
Bravo.
Merci.
À tout à l'heure.
Merci beaucoup, Jean Labbadie. Robert Guédiguian, on voulait vous dire quelque chose. Il y a des films qui nous manquent beaucoup au palmarès et on voudrait savoir comment expliquer leur absence. On va peut-être commencer par Burning de Lee Chang-dong, adapté du romancier japonais Murakami. Ce Jules et Jim coréen, matinée de polar, si beau, si poétique, si superbement réalisé et interprété. Alors Robert?
Non, mais si vous voulez, moi j'ai pensé que l'ensemble de la sélection était de très haut niveau et que on peut pas donner, donc je fais un petit peu langue de bois.
Vous voyez, langue de bois, voilà.
On peut pas donner 21 prix, voilà, ouais. Parce qu'il y en a que 7, enfin, avec les ex-échos, on peut s'arranger un petit peu plus, mais, et il s'avère que plusieurs films, donc, que le jury a aimé ne se retrouvent pas dans le palmarès.
Non, la question des
titres, pardon. Mais je dirais pas quel film d'ailleurs qu'on a aimé, si on ne retrouve pas dans le palmarès, parce que ça serait pas gentil pour ceux dont on n'a jamais cité pour qu'ils soient dans le palmarès.
La question quand même.
Donc c'est là où la limite où je peux pas parler.
La question qu'on peut se poser peut-être quand même en voyant le palmarès, c'est est-ce qu'il n'y a pas à un moment une tentation un peu de saupoudrage national, étant entendu que par exemple si on dit la Palme d'Or à un Japonais, alors l'Asie est quasiment écartée du reste, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation là?
Non.
Jamais.
Non.
À aucun moment.
Non.
Les yeux dans les yeux.
Alors, bien sûr, non. Ni, ça serait une pression qu'on se mettrait à nous-mêmes, je veux dire, d'abord. Parce que de pression extérieure, il n'y en a pas, ça c'est sûr. Mm-hmm. Évidemment, nous, chaque individu, les 9 qui composent le jury, moi, par exemple, ça m'est absolument égal qu'il y ait un Japonais ou pas, qu'il y ait un Russe ou pas, qu'il y ait un Français ou pas. Je veux dire, d'ailleurs, il n'y a pas de Français.
D'ailleurs, il n'y a pas de Français.
J'ai jamais pensé à ça une seconde. D'accord. En regardant les films.
Non, mais qu'il y ait un Japonais, plus un Coréen, plus un Chinois. Non. Ça aurait pu être le cas, vu l'extrême qualité des films asiatiques qui ont été présentés en compétition.
Est-ce que vous vous êtes...
J'ai pas pensé. Ouais. C'est vraiment les films eux-mêmes qui sont jugés... indépendamment de leur nationalité.
Est-ce que vous vous êtes senti pour un film seul contre tous? Ça peut arriver. Que vous aimez énormément un film, que vous avez essayé de le défendre, mais qu'il n'a pas emporté
mais
de...
C'est pas arrivé.
Non. Vous n'aviez pas un coup de cœur que les autres n'avaient pas.
Non, et c'est pour ça que je dis que ce si effectivement...
Très consensuel.
Oui, absolument. Il y a eu très peu des discussions formidables d'ailleurs que j'ai trouvées, puisqu'effectivement on a, je pense, au moins parlé une heure de chaque film. Ça fait 21 heures.
C'est moins long que le film déjà.
Plus les heures à parler de tous les films, à les comparer, etc. Tout ça. Donc c'est une espèce de séminaire intensif et international sur ces 21 films. C'était effectivement passionnant parce que les approches n'étaient pas les mêmes, parce que vraiment et la manière d'en parler n'était pas la même, mais on n'avait pas de divergences fortes. Il y avait des divergences parfois sur 10%, je pourrais dire, si pour mettre des chiffres, pour essayer de dire.
Parfois, il y a une séparation entre ce que pense la critique des films qu'on voit à Cannes et d'un jury, on l'a dit tout à l'heure, qui est composé de personnalités qui viennent de différentes raisons. Est-ce que vous, comment vous vous préservez justement du regard critique tous les jours? Ça tweet, on en crée des articles. Est-ce que vous... En plus, en tant que Français, avec beaucoup de journalistes français, est-ce que vous lisez les journaux? Est-ce que vous regardez ce qu'ont pensé les journalistes
des films? Je dis tout, moi. Moi, je dis tout. Alors, il y a des gens qui disent ça me trouble, etc. Moi, vous savez, ça fait 50 ans que je lis tout tous les jours. Je continue à tout lire tous les jours. Voilà, je sais pas. C'est pas parce que je suis jury. Mais voilà, c'est-à-dire que tout m'influence ou ne m'influence pas. Je suis capable quand même de faire le tri dans les choses et d'affirmer mon propre goût indépendamment de ce que pensent les uns et les autres. Donc, je lis tout toute la journée, comme d'habitude.
Alex Vizente.
Dans cette édition, on s'est beaucoup interrogé sur la place des femmes. Quelle a été la position du jury à ce sujet? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une volonté affichée, explicite, de primer des films faits par des femmes, surtout compte tenu des positions publiques de la présidente du jury, Cate Blanchett?
Non plus. Je veux dire, non.
Jamais. À aucun moment, le sujet n'est venu sur la table.
Il est venu sur la table pour être rejeté, c'est-à-dire qu'il n'est pas question, il disait on attend ça de nous, il n'est pas question qu'on fasse ça. Voilà, voilà comment il était amené sur la table, c'est-à-dire que évidemment il ne s'agissait pas de juger que jury, Dieu soit loué d'ailleurs, je veux dire, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour dire bon, il faut absolument, moi je suis féministe, il faut absolument qu'il y ait une femme, je veux dire, moi je suis communiste, il faut absolument qu'il y ait un communiste, j'aurais du mal à en trouver d'ailleurs. moi je suis noir, il faut absolument qu'il y ait un cinéaste noir, je sais pas, on pouvait pas. Non, ça ne tient pas compte du tout.
Silenzio, si gira. Silenzio.
Camera.
Moteur.
Motore. Partito.
Check.
Odissea 14702 prima.
Nous avons vu le film et on n'a pas pu arrêter d'en parler. Bien sûr, on ne dispose que de peu de temps pour parler de chaque film. Il faut en voir deux ou trois par jour et on ne se retrouve qu'une fois par jour. Et ce film est resté avec nous. C'est un film qui provoque la surprise, la colère. Et ce film a eu un grand impact sur nous pendant le reste du festival. C'est un artiste qui ne cesse d'expérimenter de nouvelles choses, qui change même l'avenir du cinéma. On a pensé donc que le film était très important en tant que tel et aussi dans le contexte de tous les autres films que nous avons vus. Ce n'est pas une palme d'or honoraire, il faut le voir dans le contexte général. Il faut voir donc son œuvre depuis toujours, qui nous a profondément influencé.
Robert Guédiguian, nous avons vécu à Cannes une expérience physique assez hallucinante en regardant ce film de Godard,
explosive. Le livre du Mans,
explosive dans le Théâtre Lumière. Godard est-il au-dessus de la mêlée?
Oui, pour moi oui, bien sûr. Mais au-dessus, ça ne veut pas dire d'ailleurs, je pense que on lui a envoyé un petit mot avec nos photos de nous tous là. Moi j'ai dit mettons ni Dieu ni maître quand même sur le truc, ça lui fera plaisir. Et je crois qu'effectivement ça lui fait plaisir si on lui dit ni Dieu ni maître. Lui-même, je crois que ça l'agacerait si on disait ça. Mais pourquoi je dis oui? Je dis oui parce que aujourd'hui il incarne à lui tout seul le cinéma. Godard et cinéma, c'est le même mot. Quasiment de par la manière dont il a marqué cette histoire-là du cinéma. C'est le cinéaste donc le plus connu du monde et dont le sujet a toujours été le cinéma, en fait, au fond. Voilà, son sujet, son thème, son motif d'auteur, c'est le cinéma. Bon, il continue à le faire avec les mêmes visions, les mêmes prévisions, la même prophétie. Et puis après, c'est vrai que dans les différentes, d'ailleurs, dans sa dernière manière, on va dire, c'est-à-dire sa manière poético-philosophique, enfin bon, ce montage poético-philosophique, il y a quand même des choses plus ou moins qui nous marquent plus ou moins ou qui nous choquent plus ou moins. Ce film-là est quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est saisissant. C'est pour ça que je dis explosif, mais fait oui, ouais. de la guerre en permanence. C'est une extrêmement grande réussite de Godard, bien sûr.
Alex.
C'est un film à part, d'un cinéaste à part, et visiblement, c'était compliqué de lui trouver une place dans le palmarès. La présidente de jury a parlé même elle a dit qu'il a fallu faire une entorse au protocole. Est-ce qu'il y a eu des résistances de la part du festival pour donner ce prix? Cette palme exceptionnelle qui n'a jamais eu lieu pendant les 71 éditions précédentes.
Ouais. Non. Ça, c'est vrai qu'il faut formuler la demande, en fait, si on veut faire quelque chose d'exceptionnel, qui est pas depuis un règlement très précis. Bon, donc si on veut faire quelque chose, ça, une palme spéciale, ça n'a jamais existé. On s'est dit, on devait tourner autour du pot, on voulait faire quelque chose, donc on a proposé à Pierre Lescure, à Thierry Frémaux de faire ça. Bon, ils ont dû réfléchir 5 minutes, enfin, ils ont dit oui tout de suite, quasiment.
Thomas Borès.
On a envie de dire, si Godard est au-dessus de la mêlée, pourquoi pas lui donner la Palme d'Or?
Oui.
Parce qu'effectivement, je trouve, non, justement, parce qu'il est, j'allais presque dire, parce que, faire un jeu de mots, il est hors compétition. Oui, il est hors compétition. Il a déjà la Palme d'Or. C'est le cinéma, voilà. Donc on peut marquer ça parce qu'on a envie de le marquer. Moi, j'avais d'autant plus envie de le marquer que moi, j'étais très ému par la dernière image,
ben oui.
Que j'ai un peu expliqué à tout le monde, parce que beaucoup de gens, enfin à tout le monde, à tous les étrangers qui connaissent pas forcément la ronde d'Ophuls, mais bon. Le vieux monsieur qui danse,
c'est
quand
lui.
Même. Enfin, le vieux monsieur, avec un masque de jeune homme,
oui,
il danse, il s'effondre à ce moment-là, Là, le film, dans le film de Godard, ça s'arrête. Mais dans le film d'Ophuls, on enlève le masque et on s'aperçoit que c'est un très vieux monsieur qui veut toujours être jeune. Bon, évidemment, je le prends en plein pot pour ce monsieur qui a 87 ans, 88, je me souviens plus. Sa voix est magnifique dans le film d'ailleurs aussi.
Oui. Donc le film,
très malheureux.
Le film, en plus de sa donc de sa force visionnaire, quoi, théorique, j'allais dire presque aussi. Hein, en plus avec cette voix et cette émotion-là, c'est vrai que c'est une très très grande Godard. Quoi, voilà.
On va écouter quelqu'un qu'on n'a pas entendu sur scène et qui est passionnant, c'est Fabrice Aragno. Il est crédité comme producteur, directeur de la photo, monteur, ingénieur du son de Godard et on a repris ses propos parce qu'ils étaient très intéressants sur son travail intime avec Godard.
Moi je suis un plutôt sans dieu ni maître, donc j'ai de la peine à me dire à chaque instant, je travaille avec un génie. Ben, c'est impossible, moi je suis rien, et comment on peut travailler avec un génie quand on n'est rien? Alors pour moi, c'est plutôt travailler avec un être humain, quoi. Il y a un rapport humain qui est extrêmement simple, et extrêmement... Je sais pas, il y a une affection énorme. Enfin, on se vouvoie, c'est très mignon, mais on se vouvoie, et c'est un peu comme chez Flaubert, entre Arnaud et Moreau, quoi. Enfin, pour moi, Enfin voilà, on travaille comme ça, tout simplement. Enfin, c'est pas qu'on est à philosopher sur le monde tout le temps, à chaque instant, non. Enfin, en tout cas, mon expérience personnelle, elle est comme ça, d'inventer chaque fois des nouvelles choses, d'essayer des choses. Moi, je suis pour les essais. Je pense qu'un film doit être de toute façon un essai. Un film n'est jamais une espèce d'objet. Enfin, c'est comme toute œuvre d'art, quoi. Enfin, on peut dire oui, l'œuvre d'art que j'ai fait, c'est un chef-d'œuvre, je le sais. Point. Paf. Non, toute chose est une tentative, quoi. Donc là, c'est une. Donc voilà, j'adore tenter des choses. Et lui, en plus, il nous laisse le faire. Donc, c'est magnifique. Un jour, sur un film précédent, sur un film socialisme, on devait partir en tournage, en repérage sur un bateau, un Costa Concordia. Et puis, il n'est pas venu avec nous. Et puis, du coup, il nous a dit bon, bah, allez-y. Je lui dis mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va tourner? Je vais rien vous dire. Parce que si je vous dis que j'ai besoin de ça ou de ça, vous allez essayer de le faire et ça va être nul. Donc allez-y. Mais quel cadeau! Quel cadeau! Les gens m'ont dit, mais il te laisse beaucoup de liberté. Non, il ne l'a jamais prise, la liberté. Donc je peux juste être moi-même. C'est magnifique d'être soi-même, quoi. Enfin, c'est un peu rare aujourd'hui, parce qu'on nous dit, tout le monde nous dit non, faut faire comme si, faut que ton histoire, tu l'écrives comme ça. Un film, c'est comme si, un film, c'est comme ça. Et lui, il dit pas. On est juste nous-mêmes, quoi.
Vous avez
et c'est pareil pour les spectateurs, enfin, c'est à vous, vous n'avez pas à se dire je dois comprendre, qu'est-ce qu'il veut dire, je ne comprends pas, l'explication. Non, il n'y a rien à comprendre. Il faut prendre. Lui, il prend et il nous donne, donc il faut prendre. Il faut embrasser le truc, quoi. Il ne faut pas forcément. L'explication, toujours. Enfin, il faut être un enfant de 6 ans, quoi, qui. Comme lui, quoi. Un gosse, quoi. C'est un vrai créateur, quoi. Même jusqu'à il y a 2-3 semaines, on a toujours fait des petits rajouts au montage. C'est vraiment un peintre quoi, qui revient sur la toile, qui revient à chaque fois. Il me dit, non, maintenant c'est terminé, c'est l'ultime montage. Hein, c'est terminé, bon, très bien. Alors je prends tout le bazar, j'essaie de faire au propre sur l'ordinateur. Lui, il ne travaille pas sur un ordinateur, hein, il travaille avec des cassettes. Donc c'est un art du montage, un as du montage. Il travaille avec des cassettes, play, rec, pause. Enfin, c'est un truc un peu archaïque, mais bon, il fait comme ça. Moi, je transforme ça sur l'ordinateur. Mais jusqu'à la dernière minute, il me dit « Ah non, on va changer un truc. » Vraiment, l'artiste qui revient sur sa toile. Quoi. Enfin, et il n'est pas fini, le film. Hein, là. On va peut-être encore y rajouter des trucs. Et enfin, voilà.
Fabrice Aragno, collaborateur très spécial de Godard. Alors, le film, le livre d'images sur une décision de Godard, sera diffusé sur Arte, mais paraît-il aussi dans les musées et en séance spéciale dans les cinémas. En parlant de diffusion de films, Robert Guédiguian, on a appris que « Heureux comme Lazzaro » a été acheté par Netflix. Certes, seulement en Amérique latine et en Amérique du Nord. Ça vous en touche une ou pas?
On rappelle, c'est le film de l'italienne Alice Rohrwacher.
Ouais.
Et qui a eu un prix.
Non, mais ça sortira en salle ici, en Italie, etc., partout. Après, que ce soit Netflix qui a acheté le film pour l'Amérique du Sud. Moi, j'ai vendu des films à la Chine sur des networks chinois. Hein, je veux dire, voilà, la villa sortira, je ne sais pas où, en Chine, je ne sais pas comment. Je sais comment c'est sorti en France, en Espagne, en Italie, par contre.
Moi, j'ai lu, vous avez dit un jour,
par
les films. Oui, pardon. Oui.
Par contre, effectivement, je continue à penser que si on venait à perdre l'idée de regarder collectivement des films, comme vient de le dire, effectivement, d'ailleurs, Labadie, ce serait une chose grave, voilà. Après, un financement, c'est un financement. Mais je crois qu'il faut quand même arriver tant qu'on peut, je veux dire, en tout cas, à imposer de prendre la parole dans des salles de cinéma, c'est-à-dire de s'adresser à beaucoup de gens qui sont ensemble à vous écouter, et pas tout seul.
Donc, je disais, un jour, vous avez dit, les films que j'aime réunissent le quotidien et la mythologie. C'est la définition de heureux comme Lazzaro, qui aurait pu avoir la Palme d'Or.
Mais oui, mais il n'a pas eu.
Et là, Robert Guédiguian s'éloigne du
micro. Le muet du sirène.
Non. C'est un beau film, bien sûr, comme tous les films qui ont été primés.
On en saura pas plus. Voilà.
Autre déception, et surtout du côté de Laurent, c'est celle du Turc Bilgoç Ceylan pour Le Poirier Sauvage, Laurent.
Oui, moi j'ai une question, mais à laquelle vous répondez peut-être pas, mais quand même, nous l'avoir montré, à la toute fin du festival, ce film de 3h30, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il demande une certaine exigence aux spectateurs, pas seulement sur sa durée, mais aussi par ce qu'il dit, par ce qu'il montre. Est-ce que c'est pas là quand même un petit souci de programmation et d'équilibre des films montrés?
Peut-être, mais je sais comment ça se fait. Là. Par contre, je sais comment ça se fait quand on est à l'extérieur. J'ai eu des films à Cannes comme producteur et comme réalisateur. C'est une discussion, hein, c'est une négociation. On pourrait attendre tel jour, à telle heure,
etc.
Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Et voilà, pour plein de raisons. Pour les ventes étrangères aussi, c'est pas. Bon, en général, on n'a pas très envie d'être à la fin. La manière dont tout ça s'organise, il y a aussi des rapports de force, hein, sur être programmé plutôt l'après-midi, plutôt à 20h, plutôt bon. Tout le monde cherche la meilleure programmation possible de son film dans la grille de Cannes. Quoi. Oui. C'est un combat, un débat, la présence des acteurs ou pas qui sont là, pas là, la disponibilité des réalisateurs qui sont là, pas là, je sais rien.
Et une nouvelle question, le fait qu'il ait eu une Palme d'Or très très récemment, ça joue pas, on en parle, c'est évoqué.
Ça doit.
On sait tous les gens qui ont déjà eu le prix, hein, donc évidemment, ça peut
rentrer en ligne de compte?
Éventuellement, ça peut entendre. Je pense qu'on est obligé d'y penser, oui.
Le Jazz en queue, il était très bien programmé, pourtant, Les Éternels.
Et il est magnifique, il a une actrice principale sublime.
Je vous ai dit, il y a 21 très beaux films.
On n'y arrivera pas.
On le disait, pas de Français au palmarès, donc vous n'êtes pas vraiment chauvin. Il y en avait 4 en compétition, pourtant, Robert Guédiguian.
Oui, mais je
voire 5 si on inclut Godard, enfin bon.
C'est comme ça aussi. J'avais qu'une voix sur 9. Hein.
C'est un peu embêtant quand même, parce que 4 films français sur 21, ça fait un quart, si je me rappelle mes cours de mathématiques, ça fait quand même presque un quart des films. Aucun ne sort de là. Ça surreprésente le cinéma français par rapport aux autres. C'est un problème quand même, non? Non, ça vous choque pas?
Non, je crois pas. Je suis obligé de rester sur la ligne, effectivement. Je crois que tous les films avaient des qualités et que ce jury-là a jugé que ceux qui en avaient le plus sont ceux qui sont primés. Je peux pas dire autre chose que ça.
Est-ce que vous avez eu des
indépendamment justement de leur nationalité, indépendamment de leur contenu politique, indépendamment du fait qu'ils avaient eu le palme avant ou pas, indépendamment de tout ça. Tout ça compte, mais n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce dénominateur commun. Et d'ailleurs, je reprends un petit peu. Le dénominateur commun n'étant pas la chose qui nous arrange tous. Mm-hmm. Ça peut être la chose qui nous dérange tous, le dénominateur commun. Je voulais dire, le dénominateur commun, c'est le film, l'objet film, lui, unique, là, qu'on a eu sous les yeux, et qui peut éventuellement choisir le film qui dérange tout le monde, ou qui arrange tout le monde. Mais c'est pas forcément qui arrange. Donc c'est pas forcément. Quand je dis dénominateur commun, c'est pas consensus.
Mm-hmm. Tiens, d'ailleurs, il y avait un film communiste, hein, quand même. Hein. Le film de Stéphane Brisé qui met
c'est le film le plus.
Le leader cégétiste en permanence pendant 1h40, quand même. Qui a fait la une de l'humanité. Hein, quand même.
Il essaie de me piéger.
Non, vous posez juste une question.
Je vous vois venir.
Mais justement.
Oui, mais c'est un lindo.
C'est un film qui est perçu. On peut savoir comment il est perçu par un jury. Un peu, quand même.
Pas trop, non.
Non, on peut pas.
Est-ce qu'il a paru très français aux autres? Juste oui, ça.
Non, mais les films français ont été aimés aussi, hein, je veux dire, comme les films d'autres pays.
C'était un communiqué du ministère de l'Information.
Ça me semble le jeu, je disais, pas dans le festival. Voilà. Chaque fois que je me suis baladé dans la rue j'ai croisé des tas de gens, évidemment, français, étrangers que je connais, exploitants de je sais pas quoi, de Pau, enfin, des journalistes, des copains distributeurs, producteurs. Je dirais, j'avais l'impression de jouer à celui qui dit oui, celui qui dit non. Je disais, vous pouvez parler de rien. Quoi. Je disais, il fait beau aujourd'hui. C'est vrai, oui, il va peut-être le voir demain.
Une dernière question, Alex. Je veux
juste peut-être signaler que le film de Stéphane Brisé était bien mieux accueilli par la presse française que par la presse internationale. C'est peut-être le même cas de figure au sein du jury.
Voilà. Et une dernière remarque. Vous devez beaucoup à Cannes, Robert Guédiguian, avec Marius et Jeannette.
Et c'est énorme.
Énorme.
Même plus que ça, je dirais, je dois regarder même pour Dernière été, mon premier film.
Oui. Mmh.
Mon premier film à la quinzaine, en 1981, c'était un succès de dingue. Je veux dire, j'avais effectivement une presse dithyrambique, j'avais vendu quelques pays étrangers, je débarquais, j'avais 26 ans. Mmh. Je veux dire, j'étais déjà absolument sur un nuage, quoi, je veux dire. Donc, ça a commencé avec ça, avec Dernière été déjà. Mmh. Et Marius, on ne parle pas. Oui.
Vous restez avec nous, j'espère que vous parlerez plus parce qu'on va parler des sorties de la semaine. Donc, ce sont des films qui sont plus sous embargo.
Non, merci.
Juste après, Barbara Carlotti, voir les étoiles tomber.
J'avance sans peur dans la dead zone.
Sorti, on va commencer par Solo, et comme a tweeté Jean Labbadie, j'adore l'excellent film de Jean-Pierre Mocky. Solo bénéficie d'une ressortie à grande échelle. Bravo pour cette défense du patrimoine. Non, pardon. Solo, Star Wars Story, un spin-off, autrement dit, on raconte après ce qui s'est passé avant Solo. Et en fait, c'est le voyage initiatique de Han Solo et la rencontre avec son futur copilote Chewbacca. Le film est écrit à quatre mains par Laurence Kasdan et par son fils. Alex, vous l'avez vu, et vous aussi, Thomas?
Oui, absolument.
Vu, ouais. C'est, ouais. C'est un retour aux sources, en quelque sorte, car il raconte les origines du personnage, mais aussi un retour à un récit très, très traditionnel, un style plus traditionnel avec Laurence Kasdan aux manettes. Pour moi, c'est un rattache considérable, sans magie, sans éclat, sans point de vue, prévisible du côté de l'action, visuellement fade, voire laid, et avec un problème de casting considérable, car le comédien qui est censé incarner un Solo, qui prend le relais de Harrison Ford, qui s'appelle Alden Ehrenreich.
Oui, oui. On l'avait vu chez les Coen, qui était super.
Exactement, il était super chez les Coen. Oui. Il avait été découvert par Coppola dans Tetro. Il était super aussi. Mm. En revanche, là, même s'il a l'aspect physique qu'il faut pour le personnage, car il a ses looks à la James Dean, il n'a ni le charisme, ni le charme nécessaire pour le rôle.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le premier caillou dans la chaussure de Disney, donc qui a racheté, rappelons-le, la franchise de George Lucas, et qui pour l'instant, en fait, avait décidé plus ou moins à raison, d'ailleurs, de mettre des jeunes dans la machine et de faire un petit peu faire des films, non pas qui révolutionnent la saga, mais en tout cas qui l'emmènent ailleurs. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que deux réalisateurs américains qui avaient fait La Grande Aventure Lego, qui était une espèce de film assez barré, eh bien, ont été virés du tournage après 5 semaines de tournage. Et c'est Ron Howard qui est arrivé à la rescousse pour polisser les choses. Et on voit que c'est un film de consensus, puisqu'on parlait de consensus tout à l'heure.
Kate Blanchett dans un film où elle incarne 13 personnages. Robert Guédiguian, c'est Manifesto de Julian Rosenfeld. Vous l'avez vu, Laurent?
Vous bouchez les oreilles, Robert, s'il vous plaît. Sinon, on va être obligé de dire un peu le mal de la présidente. Hein. Franchement, moi, j'ai découvert ça, si je puis dire, au Musée des Beaux-Arts, il y a quelques mois. Alors, c'était une installation. On passait de salle en salle en se demandant où on était, ce qu'on faisait, ce qu'on voyait. Franchement, c'est-à-dire cette espèce de panoplie de 13 personnages, tous plus caricaturaux les uns que les autres, une journaliste, un SDF, qui disent des textes d'autres personnes dont on découvre que c'est effectivement censé être des textes très intelligents. Mais, honnêtement, je n'ai rien vu d'intéressant là-dedans, ni cinématographiquement, ni en termes de contenu. Et alors, le fait de le ressortir en salle maintenant, c'est-à-dire d'obliger les gens à aller voir dans une salle de cinéma l'ensemble de ces 13 portraits compactés, là au moins sur l'installation, on pouvait passer d'une salle à l'autre en courant. Là, c'est pas possible qu'on est pris en otage pendant 1h30 par manifesté.
Gueule d'ange est un premier film de Vanessa Fillo. Une jeune femme vit seule avec sa fille de 8 ans une nuit. Après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livré elle-même. C'était à Cannes, avec Marion Cotillard, teinte en blonde.
Oui, ben c'est la preuve, nouvelle preuve qu'il faut que Marion Cotillard soit dirigée, quoi. C'est-à-dire que quand elle est chez Arnaud Desplechin, tout va bien. Quand elle est chez les frères Dardenne, tout va très très bien. Ouais. Quand elle est chez Vanessa Fillo, dont c'est le premier film, alors on l'excusera un peu d'avoir fait un film long, 2 heures. Non, certainement pas. On peut pas l'excuser parce que pour faire le portrait d'une cagole pendant 2 heures, c'est très très long. Et quand la cagole a en plus une petite fille qui essaye elle-même d'être une cagole, c'est-à-dire de se maquiller comme sa mère et de boire comme sa mère, ce que je trouve un peu même limite en termes d'image et de façon de montrer les choses. Non, cette gueule d'ange, pour moi, a du mal à passer, honnêtement.
Oui, puis Thomas Borès. Une esthétique très, très, très pubard, c'est-à-dire très léché, tout doit faire chic. Oui. Même le rimmel qui coule doit faire chic. Absolument. Donc ça, c'est assez putassier comme parti pris. Ça prouve aussi que parfois, c'est compliqué de faire venir les stars à Cannes et que parfois, ils sont un petit peu bloqués. Donc Star Wars, dans le calendrier, ça tombait bien, ils ont pu le faire venir. Et puis, le quotidien, on ne s'en prive pas. Donc on la met un certain regard en se disant, bon, voilà, le jury ne se...
Dommage.
Le ciel étoilé au-dessus de ma tête de Ilan Klipper. Bruno a publié un fougueux premier roman en 96. La presse titrait Il y a un avant et un après. Le ciel étoilé au-dessus de ma tête. 20 ans plus tard, Bruno a 50 ans. Il est célibataire, il n'a pas d'enfant, il vit en colocation, il se lève à 14h et passe la plupart de ses journées en caleçon à la recherche d'une inspiration. Sa famille s'inquiète. C'est un thème assez fort, hein. L'artiste, après un premier succès fulgurant qui tombe dans l'oubli et la folie. Seulement, le traitement n'est pas à la hauteur.
Oui, je rappelle juste, parce que c'est très très beau, le titre est issu d'une citation de Kant qui disait « Deux choses remplissent le cœur de crainte et d'admiration, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi ». Bon, le film n'est pas tout à fait à la hauteur de Kant, hein, il faut bien le dire. C'est-à-dire que la vraie question, c'est est-ce qu'on peut tenir la note de faire un film sur un personnage foutraque ? La réponse est oui. Faut-il pour autant que le film lui-même soit foutraque ? Pour moi, la réponse est non.
La fête des mères de Marie Castille, mention char. Elles sont présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne, prof, fleuriste, on dirait du Cate Blanchett, journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives, bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes. C'est un portrait de plein de femmes.
Oui, c'est-à-dire qu'on touche un peu le fond parce que il sort au moment de la fête des mères. Hein. Donc c'est un nouveau concept, c'est le film Kleenex. Donc par exemple, l'an prochain, on pourrait suggérer...
On en a eu en compétition. Hein.
Oui, mais alors l'an prochain... L'an prochain,
les filles du soleil recouvertes de miel.
C'est vrai. Mais là, il sort vraiment il sort pour la fête des mères. Donc l'an prochain, Gilles Lelouch, après la fête de le grand bain des potes, pourrait nous proposer la fête des pères. Puis on aurait la fête des voisins, puis la fête du chien, la fête des chats. Enfin, il y a beaucoup de fêtes. On le sait bien. Il y a une fête par jour en France. Donc cette façon de faire du cinéma Kleenex sur des événements purement commerciaux, parce que ces fêtes sont des événements purement commerciaux. Moi, j'avoue que ça me pose un léger problème. Tout ça pour montrer. Vous avez fait la liste des professions. C'est plutôt quand même président de la République, journaliste. artiste façon Claire Chazal, actrice star, romancière à succès. Il y a une prostituée, elle est asiatique et elle ne dit pas un mot. C'est un tout petit peu gênant quand même. Et il y a la présidente de la République qui dit cette phrase, vous avez élu une femme, demain vous voterez pour une mère. Là les bras m'en sont tombés, j'ai failli quitter la salle.
Sinon moi je vous recommande d'aller voir parce qu'il est sorti pendant Cannes effectivement et le jury a été là exclu du palmarès, mais nous on l'aime beaucoup. C'est Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré qui est un très beau film, super bien dialogué, thème profond, très bien interprété enfin.
Absolument.
Voilà.
Et Le Voyeur de Michael Mowell qui ressort, qu'il faut toujours aller voir parce que c'est un chef-d'œuvre absolu de l'histoire du cinéma. Et puis un cadeau pour vous, Robert Guédiguian, un cadeau un tout petit peu en situation. Le livre s'appelle L'écran rouge, sous-titre Syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo sous la direction de Tanguy Perron. On se demande un peu où on va chercher tout ça. Hein. Préface de Costa Gavras, postface s'il vous plaît de Philippe Martinez.
On connaît voilà, le prochain film de Robert Guédiguian.
Le prochain film, c'est La Fête de l'Humanité.
Justement.
Non, c'est un très très beau bouquin, très intelligent sur les rapports du cinéma et du syndicalisme dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois les films qui parlent de ça, mais aussi la façon dont le cinéma français a vécu ses rapports avec le syndicalisme.
D'ailleurs, votre prochain film, c'est sur quoi ?
Jusqu'au le 26 novembre.
Oui, et ça s'appelle
à
comment ?
À 9h du matin.
Ça s'appelle comment ?
À Marseille, avec les mêmes acteurs.
Oui.
Ça s'appelle Sic Transit Gloria Mundi.
Ah. Et en français ?
Ainsi passe à la gloire du monde.
Ah, très bien. Merci beaucoup, Robert Guédiguian. Merci, Thomas Borès. Merci, Alex Vicente. On va terminer. On va proposer ce générique de fin avec l'équipe de Plaire, aimer et courir vite. Avec, on insiste. Hein, avec Christophe Honoré, Pierre Deladonchamp et Vincent Lacoste. Merci encore.
Merci.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs
et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantes a composé la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Vincent Lacoste, j'y étais.
Et moi, Pierre Deladonchamp, j'y étais.
Et moi, Christophe Honoré, j'y étais aussi.